Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus en ce lieu. Merci pour la présence de chacun et merci Seigneur de nous avoir déjà précédés et de préparer encore nos cœurs à l'écoute de sa parole, à son partage et surtout à ce que ça soit une nouvelle graine qui soit posée en nous afin de nous permettre à notre bonne croissance spirituelle. Merci pour ces louanges et pour la lecture de ces versets. Alors pour faire le lien avec notre partage de cet après-midi sur le thème « Fou en Christ », j'ai relevé plusieurs petites choses dans ces versets de 1 Corinthiens. Donc déjà, Paul dit la seule chose qui a dans sa pensée à savoir, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il dit que sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, de la sagesse, mais sur l'esprit de puissance, l'esprit de Dieu. Et il parle de la non-sagesse des hommes, hein, à la fin, et de la puissance de Dieu. Alors à soulever vraiment ces oppositions entre le monde, entre l'Esprit de Dieu, où on dirait qu'il y a une opposition. Et c'est vrai que si nous prenons juste l'exemple de la croix, eh ben, dans la Bible, il est écrit qu'il y a la folie de la croix. Alors qu'est-ce que c'est la folie de la croix? La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Et comme Paul enseigne, Dieu utilise les choses que le monde considère comme folles pour sauver les croyants. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, donc juste ce qui précède les versets que nous venons de lire. Paul écrit ceci, « Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Alors vous allez entendre plusieurs fois cet après-midi parler de folie. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Et alors, quand il va parler de la résurrection, ça va être encore pire. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et enfin, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, voilà toute une suite, on a l'impression d'avoir une balance en face de soi, hein, la balance de Dieu et la balance des hommes, la réflexion de Dieu, la raison de Dieu et celle des hommes, la sagesse et la folie. Celle qui s'oppose, qui se croise, qui se met en opposition à chaque fois. Il a même été écrit des choses sur la folie du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les reconnaître et les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'opposition, encore, entre l'homme charnel, on va dire, l'Adam, et l'homme spirituel, qui est Jésus. C'est vrai, c'est un peu passé, mais pour la plupart, nous revenons de vacances. Nous avons passé un temps de repos. On s'est un peu exilé. On est parti par Mons et par Vaud. Période de repos bien méritée, hein, pour la plupart d'entre nous, bien sûr. Hein. Alors, nous avons sûrement rencontré d'autres personnes dans d'autres circonstances, dans d'autres cadres, et sûrement plus distant, plus détendu aussi, plus disponible également. Peut-être aussi l'occasion de parler de notre foi. Et est-ce que nous avons eu l'occasion d'être confrontés à ce que nous venons de lire, de partager et d'entendre, ce que nous pouvons exprimer sur la sagesse de Dieu qui se met en opposition à la folie des hommes, le rejet de la parole de Dieu. Parce que, en tout cas, ma richesse, mon or, mon compte en banque n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Ma gloire, ma notoriété, mon pouvoir sont même opposés à la pensée de Dieu. Car rien ne vient de moi, mais tout vient de Dieu. J'aimerais que l'on s'arrête dans une deuxième partie de ce message, de ce partage, sur les folies que nous avons. Vous savez que la folie existe, enfin la folie dans le cadre que nous développons cet après-midi, la folie existe déjà depuis la création du monde. Même la création du monde est déjà folie pour la plupart. Non, ce n'est pas possible que Dieu ait qu'un esprit, Dieu ait créé cela. Non, c'est le Big Bang, c'est le hasard, c'est le néant qui s'est... Le néant a créé quelque chose. Donc déjà, il y a opposition entre l'homme et Dieu. Et nous arrivons dans Osée, chapitre 9, verset 7. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Et là, le prophète est fou, celui qui vient annoncer ça. L'homme inspiré à le délire. À cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On voit déjà que les prophètes qui annoncent ce que Dieu va faire, ou ce que Dieu demande à son peuple, sont déjà considérés comme fous. De nombreux contemporains du prophète Osée pensaient que les prophètes étaient fous, que les hommes inspirés par Dieu avaient perdu la raison, qu'ils déliraient, que leur folie, estimait-il, les amenait à conspuer le peuple à cause de ses nombreux péchés et parce qu'ils n'avaient que ceux qui aimaient Dieu. On va remonter encore un peu avant, hein, avant l'envoi des prophètes. Et il n'y a pas longtemps, c'est vrai, j'ai vu le film sur Noé. N'était-ce pas une folie, Noé? Quand on lit l'histoire de Noé, il faut se remettre dans le contexte. Un bateau immense construit dans des terres. Habituellement, on les construit quand même près d'un port, hein. Mais en pleine montagne, on va dire, ou semi-montagne, et très éloigné de la mer, on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas bien clair chez ce monsieur Noé. Que de folie! En plus, quelle folie de voir qu'un homme commence à construire ça. Et puis, parmi les hommes de sa génération, des hommes mauvais, et puis des géants, il y avait des géants à l'époque. On en retrouvera un dans quelques minutes. Alors, il est écrit ceci, dans Genèse 6. « Dieu regardait la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi. car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire de la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Quand on sait déjà combien de temps il faut construire un bateau, imaginez avec les instruments de l'époque, le temps que ça a dû prendre, l'énergie. Et puis aussi, il fallait que le bateau flotte quand même, parce que si c'était un bateau mal conçu pour couler, il n'y avait aucun intérêt. Et alors, je ne sais pas si vous vous imaginez un peu. Est-ce que vous avez calculé la taille de l'Arche de Noé? Je vais vous la donner cet après-midi. 150 mètres de long. Je voulais juste faire le calcul, 150 mètres de long, ce que ça peut faire. 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur. 15 mètres de hauteur, je peux vous assurer, ça fait quelques étages. Ici, je ne sais pas, on doit être à 6, 7 mètres peut-être. On pourra s'amuser à vérifier la prochaine fois. Donc voilà la taille de l'arche. Alors quand les hommes ont dû voir ça, ils se sont dit, mais lui, il est tombé de son arbre. Et puis souvenez-vous de l'histoire d'Abraham, qui allait tuer son fils, qui allait offrir son fils en sacrifice. Quelque chose d'impensable, voire même d'intolérable. Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, offre-le en sacrifice, tue-le, sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien sûr, vous connaissez la suite, elle en sera tout autre. Mais Dieu voulait tester la fidélité d'Abraham. Mais aux yeux des autres, c'était de la folie. Et puis souvenez-vous, Moïse qui défie Aaron, Pharaon le Tout-Puissant, celui qui avait droit de vie et de mort sur n'importe quel de ses sujets, et voire même de tous ceux qui étaient dans ses alentours. Et ce qu'il faut savoir une chose, c'est que Moïse est un homme timide, très timide, un homme qui bégayait, et qui doit être accompagné de son frère pour l'aider à parler à Pharaon. Vous imaginez un peu l'équipe. Vous imaginez l'équipe, déjà, Moïse, pourquoi Moïse? Exode 4, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il avait énormément de mal à s'exprimer. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parce que dans les versets précédents, Moïse dit, non, c'est pas possible, je ne sais pas parler, je parle mal, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir expliquer? Comment je vais convaincre Pharaon? Et Dieu lui dit, hé, c'est pas ton problème, c'est le mien. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Il persiste, Moïse, il ne veut pas y aller. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, il est déjà en route. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire et surtout ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. J'imagine que lorsqu'ils ont à maintes reprises été voir Pharaon, tout le monde devait dire, mais ils sont complètement fous ces gars-là. Ils viennent défier Pharaon. Ils viennent lui demander de libérer le peuple. Et puis souvenez-vous aussi, David contre Goliath. David, pas même un soldat, mais un petit berger, très jeune de surcroît. Et vous savez que Goliath mesurait 3 mètres de haut. Presque le double de moi. Vous imaginez un peu ? Oui, vous imaginez facilement. 3 mètres de haut. Impressionnant. Et un soldat en plus, aguerri au combat. Lisons quelques versets par rapport à cela. Voir un peu le contexte. Dans 1 Samuel 17. Éliab, son frère aîné, donc le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler aux autres soldats, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, petit prétentieux, espèce de vaurien, lui dit son frère. C'est pour voir la bataille que tu es descendu ? » David répondit, « Qu'ai-je fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Parce qu'il se demandait, mais qu'est-ce qui se passait de voir qu'il y avait un soldat de l'armée des Philistins qui venait haranguer le peuple et défier le peuple. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit de la même manière. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, le roi, qui le fit chercher. David dit à Saül, le petit jeune là, il va voir il se retrouve devant le roi, hein, et lui dit de toute son assurance, il lui dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, et le gars là-bas qui mesure 3 mètres. Ton serviteur ira se battre avec lui. Dieu avait déjà préparé David à cette action. Mais devant tous les autres, vous ne voyez pas un peu la scène inimaginable ? Une scène de folie ? Un homme fou ? Un jeune homme fou ? Perturbé ? Il a dû prendre le soleil dans le désert. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant. Et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Vous connaissez la suite. David est allé et avec une seule petite pierre a tué Goliath, même sans le toucher. Juste après, il lui a coupé la tête. Et puis encore un autre exemple, parce que ça se situe dans différents contextes. Là, on est encore avec un roi et avec Daniel. Daniel chapitre 6. Il y a un décret qui est sorti, le roi a fait un décret en disant que personne d'autre ne devait adorer, ni prier, ni se prosterner devant nulle autre personne que devant ma statue, que devant moi, son honneur. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Daniel chrétien, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, les hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi. Ils emmenèrent Daniel avec lui et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse ou lion ? Le roi répondit, sûrement, puisque c'est lui qui l'avait décrété. La chose est certaine, et selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable, irrévocable, personne ne peut changer. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Eh bien voilà, nous avons trouvé quelqu'un, il s'appelle David, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. » Vous connaissez la suite. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions n'ont pas touché. Daniel n'a pas renié sa foi. Mais quand ces hommes sont entrés, l'ont vu, lui ont dit, mais il est fou. Il vient d'être signé et lui continue à faire sa petite prière. En plus, il a la fenêtre ouverte, hein, donc il ne se cache même pas. Il ne défie pas le roi puisqu'il le faisait déjà auparavant. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, un bel exemple de folie aussi, c'est celui de Paul. Vous savez, Saul de Tarse. Saul, le persécuteur des chrétiens, celui qui allait les dénicher dans les églises, il forçait les portes, il allait chercher les chrétiens, il les emmenait, il les lapidait, il les persécutait. Et là, Saul, le persécuteur, est touché par Dieu et se transforme en Paul, le prédicateur. Du persécuteur, il est devenu prédicateur. Et les mêmes personnes qui l'ont vu tortionnaire le voient maintenant proclamer le nom de Dieu. Waouh ! Comment un seul homme a-t-il pu passer de cet état de haine, de vengeance, de guerre, de meurtre, à un état de... Et vous connaissez les écrits de Paul, sa volonté d'annoncer la parole. Acte 26, à partir du verset 22, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à voix haute, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce, mais nous sommes, comme tout à l'heure, dans une balance inversée. La folie de l'homme qui s'oppose à la sagesse de Dieu, et ainsi de suite. Et Paul, qu'il ne connaissait en rien des affaires de Jésus, va-t-on dire, se retrouve maintenant inspiré par Dieu et capable de tous ses écrits, de toutes ses inspirations. Et là, pour parler, je vous disais tout à l'heure, hein, quand il parlait déjà de Christ crucifié, bon, d'accord, c'est vrai, mais alors quand il parle de Christ ressuscité, c'est une double folie. Mais il l'annonce, clair et haut. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Et il dit, « Nous sommes fous, fous en Christ. » Et il dit même, « Nous sommes fous à cause de Christ. » Mais vous êtes sages en Christ. Et nous sommes. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Paul n'a que faire de la considération des autres à se voir étiqueté de sage, de prophète, d'homme de bien. Non. La seule chose, c'est je veux proclamer Christ crucifié, mais Christ ressuscité. Mais vous savez que Jésus n'a pas été épargné par cela. Vous savez que Jésus a été aussi traité de fou. Jean chapitre 10, verset 19. Il y eut de nouveau, à cause des paroles de Jésus, division parmi les Juifs. Ce n'était pas la première fois. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? Parler de la parole de Dieu est folie pour celui qui ne croit pas. Et dans Romains chapitre 3, versets 9 à 12, « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Est-ce que nous, chrétiens, on peut dire nous sommes plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et puis juste avant, dans Romains 1, donc, il est écrit aussi ceci, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, la gloire du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Il est écrit aussi, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. » Il n'est nul besoin d'user de méthodes empreintes de la sagesse humaine, comme disait Paul, pour convaincre et annoncer l'Évangile. Seul Dieu, par son Saint-Esprit, convainc les cœurs les plus endurcis par la puissance de sa parole proclamée. Les plus belles phrases que nous connaissons être le plus persuasif possible si nous avons en face de nous un cœur fermé, la parole de Dieu ne pénétrera pas, si Dieu ne le permet. Paul était arrivé à cette conclusion audacieuse, hein, comme nous l'avons lu, nous sommes fous à cause de Christ. Et nombreux étaient ceux qui pensaient en réalité que les chrétiens étaient fous, étaient frappés de folie. Comment pouvoir annoncer de choses pareilles ? Un homme prophète Jésus allait être crucifié, mais il allait ressusciter. Il était fils de Dieu, Dieu lui-même.
Waouh !
Les gens se laissent facilement prendre par les façons d'être et les styles qui sont à la mode et qui semblent normaux. Mais si nous voulons être sages, nous, qui sommes ici présents cet après-midi, si nous voulons être sages dans les choses de Dieu, nous devons lui faire confiance entièrement. Même si cela est pris comme une folie par rapport aux autres. Et face aux autres, face aux yeux du monde. Si nous faisons entièrement confiance à Dieu, nous découvrirons que sa folie est la clé de richesses éternelles. Amen. Moi, je préfère qu'on me dise que je suis fou, hein. Ça voudrait dire que l'on voit en moi Jésus, qu'on en voit en moi l'image de Dieu. D'une sagesse que le monde ne peut comprendre. Le monde ne peut comprendre la sagesse de Dieu. Alors aujourd'hui, peut-être nous avons peur de parler de la parole de Dieu, par peur d'être pris pour un fou, une folle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Prenons l'engagement. Soyons fermes. Prenons l'engagement d'être considérés comme fous, mais en annonçant la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Ce matin, dans l'église où j'étais, les personnes qui s'occupent du comité missionnaire ont partagé justement les témoignages. témoignages qui se passent actuellement en Irak et en Iran, avec les chrétiens qui sont persécutés, mais enfin, quand on dit persécutés, ça veut tout, ça veut rien dire. Non, les autres, on va dire, hein, sans faire de polémique, à partir du moment où il y a une maison chrétienne, ils rentrent, chassent les chrétiens, prennent leur maison, prennent leurs biens, n'ont plus de travail et se retrouvent à fuir. Ça, c'est une persécution qui est, je pense, particulièrement dure à vivre. Et puis, sans compter le reste, hein, obligation de se convertir à l'islam. Et moi, je me disais, mais nous, il ne faut pas qu'on s'endorme, nous qui avons cette liberté. Il faut que nous restions fermes dans nos engagements, dans nos convictions, que nous n'ayons pas peur d'être pris pour des fous, mais que nous puissions profiter de cette liberté que nous avons, plutôt que d'attendre la persécution. Voilà, que nous puissions aussi avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans cette situation bien, bien délicate, ma foi. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'elle puisse porter ses fruits en nos cœurs. Amen.